Merci pour ces trois très brillants exposés. Nous avons encore un peu de temps, je pense, pour lancer un débat. Je vous remercie. J'ai beaucoup appris moi-même et j'ai surtout été très intrigué par ce que vient de nous dire Madame Even. Marie-Dominique, elle a rappelé aussi certains faits de l'Europe et de l'Allemagne. Le temps, je me rappelle encore que dans ma jeunesse, il y avait des pasteurs protestants calvinistes qui avaient des portraits de Lénine dans leur cabinet d'études. Parce qu'il y avait quelque part l'idée qu'une attente messianique était aussi tout à fait compatible, pour prendre votre expression, avec l'idéal communiste. Et pourquoi Lénine ne serait-il pas un prophète? Il y a là des faits qui sont indéniables. Le rôle du World Council of Churches, qui ont joué dans la Révolution et après la Révolution chinoise, en Chine même, en est le témoin. Et moi, j'aurais très vivement souhaité que je puisse trouver une étude sur cette convergence que vous mettez aussi, donc, à ma surprise, mais aussi ce qui me rend heureux, avec ce bouddhisme qui a aussi une attente messianique tout à fait importante. Et évidemment, le rôle, vous êtes venu tout à fait dans votre conclusion, mais qui n'est pas clair, c'est qu'on s'attendrait à ce moment-là que les illuminés ou ceux qui sont les fervents d'un monde nouveau, à la fois bouddhiste et communiste, rejettent alors, d'une façon tout à fait catégorique, le chamanisme.
Oui, c'est vrai que c'était peut-être un peu moins clair à la fin. Je ne sais pas si on peut parler de messianisme à cet égard, dans ce cas de ce bouddhisme-là. Je parlais plutôt de cette projection de l'individu dans le futur, dans un avenir à la fin. C'est surtout le problème de cette réincarnation qui est devenu un gros souci, qu'il a fallu, mais qu'il était absent du paysage chamanique, où c'était simplement, il fallait arriver à assurer le bien-être de la famille, la prospérité des troupeaux, et arriver à lutter contre ces esprits qui étaient cause de divers troubles et qui avaient différentes origines. Donc là, je verrai, on passe vraiment, on est plus dans cette domaine, dans cette dimension téléologique qu'a le bouddhisme, je pense, par rapport au chamanisme, c'est cette nouveauté. Et de ce qui le rapproche à cet égard du communisme, c'est que là encore, le communisme va offrir un souci et une vision vers le futur, une vie du futur qui va justifier les comportements, ce qui n'était pas le cas du chamanisme, mais qui est aussi le cas donc du bouddhisme. C'est peut-être pas très clair, il faudra peut-être que je vous...
À qui? Vous, là-bas, monsieur.
Merci beaucoup pour vos interventions. Pour Madame Even, en fait, quand on regarde le cas du Dalai Lama, par exemple, je pense qu'on a un peu le même type de problématique. Hein. Pendant très longtemps, il a marqué son lien avec le marxisme, le socialisme, même, je pense... encore très récemment, hein, et donc malgré tout le conflit entre la Chine et le Tibet. Donc c'est un cas intéressant, là aussi, de rencontre entre idéal socialiste et bouddhisme. Et je dirais même dans le cas du Theravada et non plus du Mahayana ou du Vajrayana, il y a aussi le cas de la Thaïlande, ou de, je pense, Sulaksivaraksa, ou de certaines personnes figures de ce qu'on appelle maintenant le bouddhisme engagé, qui sont aussi sur cette rencontre entre un idéal social de type socialisant et puis le bouddhisme. Donc peut-être voilà, qu'il y a quelque chose qui serait à regarder au-delà du cas mongol. Je ne sais pas ce que vous en pensez.
Je pense qu'il y a, il y a aussi une sécularisation interne qui s'est faite dans le cadre du bouddhisme tibétain, en particulier lorsqu'il s'est retrouvé dans l'exil et qu'il a fallu changer un petit peu son fusil d'épaule. Et donc c'est vrai qu'il y a une grande évolution du bouddhisme à cet égard. Et je pense que c'est pareil dans le cas des intellectuels bouddhistes mongols, des religieux savants qui ont pris cette position, disons, de tolérance et de compromis. C'est aussi parce que la conjoncture était telle qu'il fallait trouver un moyen de faire survivre le bouddhisme dans ces conditions. Voilà.
Même avant les événements de 59, il existait une véritable amitié et une familiarité entre le Dalai Lama et Mao Zedong.
J'aimerais poser une question à Pierre-Jean Luisard, une précision. Nous nous demandions, avec mes voisines, en quoi la conversion de ces tribus au chiisme leur permettait aux membres des tribus donc d'Irak du Sud de se soustraire à cette hiérarchie bédouine qui les asservissait.
Alors oui, effectivement, la question est pertinente. Le problème est que ces tribus échappaient pour la plupart déjà à l'autorité du pouvoir central. Et donc il y avait un désir de mise en conformité avec un environnement qui était où la seule autorité légitime était à Najaf et à Karbala et non pas à Bagdad. C'était pour donner un caractère identitaire à une situation sociale qui était le lot. Mais ceci dit, tu as raison, parce que par exemple, les tribus sunnites qui se sont sédentarisées dans les régions majoritairement sunnites sont restées sunnites. Donc c'est bien par un effet d'osmose et de mise en conformité avec un environnement confessionnel, oui, que ça s'est passé.
Voilà.
Alors, merci pour vos interventions à tous les deux. Je voudrais vous poser une question, Pierre-Jean. Vraiment, votre exposé est très éclairant hein, sur les origines, finalement, du conflit actuel. Est-ce que vous croyez qu'il est pertinent, justement, de réduire ce conflit à un conflit chiite-sunnite au regard, précisément, de l'historicisation que vous en faites ? Et ce qui me gêne beaucoup dans le débat public, c'est de regarder ce qui se joue là-bas en termes de conflit sunnite-chiite. Il me semble que c'est très réducteur, car si vous prenez par exemple ce qui se joue au Liban, la projection du Hezbollah en Syrie contre les rebelles syriens, et Daesh, hein, précisément au Liban, il n'y a pas que les chiites qui sont en guerre contre les sunnites là-bas. Il y a vraiment le sentiment local sur place que le Hezbollah, même si le Hezbollah est critiqué, bien sûr, en interne, que malgré tout, le Hezbollah protège le Liban du retour de la guerre civile au sein du Liban. J'en veux pour preuve quand même ce qui s'est passé. Ben oui, Attendez. Non, c'est très important. Vraiment. Ce qui s'est passé, l'attentat qui s'est passé à Beyrouth la veille du 13 novembre, le 12 novembre. On le présente comme une attaque contre un quartier chiite et contre un quartier donc tenu par le Hezbollah. Ce n'est pas exactement vrai. C'est un quartier qui est en fait beaucoup plus mixte, c'est-à-dire qui ressemble d'une certaine façon à la cible qui a été touchée à Paris. C'est un quartier qui est beaucoup plus mixte qu'on veut bien le présenter. Il y a le camp palestinien juste à côté, qui s'appelle, qui a le même nom que le quartier Al-Boujiré qui a été touché. Et l'enjeu pour Daesh, c'était bien de créer une fracture confessionnelle là où il n'y en avait pas véritablement. Le quartier qui a été touché n'est pas dirigé par le Hezbollah, il est dirigé par le Hamal. Voilà. Et donc, et les factions palestiniennes, toutes les factions palestiniennes, au lendemain de l'attentat, enfin au moment de l'attentat, ont tenu à témoigner leur soutien au gouvernement libanais et au Hezbollah, y compris le Hamas. Donc c'est un point extrêmement important, c'est-à-dire réduire le conflit qui se joue quand même face à une entité qui essaye d'excommunier tous ceux qui ne pensent pas comme eux. Il ne s'agit pas simplement d'ailleurs des chiites, mais justement de réduire le conflit à une. Est-ce qu'il n'y a pas un danger? Au regard même de ce que vous avez présenté, de réduire le conflit actuel à une guerre de religion. Et ça sature le débat public. Il me semble que c'est faux. Voilà.
Oui, alors il y a l'analyse qu'on peut faire et il y a le discours des acteurs et il y a les processus en cours. Je suis tout à fait d'accord avec vous pour dire que c'est très réducteur, mais c'est un fait. Il y a une polarisation confessionnelle. En Irak, quand j'ai commencé à travailler sur l'Irak, il n'y avait pratiquement que des partis politiques. Aujourd'hui, il n'y a plus aucun parti politique. On est kurde, on est sunnite, on est chiite. Il n'y a plus de parti politique. Au Liban, les partis sont des partis confessionnels. Hamal est un parti chiite, même s'il y a quelques chrétiens au Hezbollah, on ne peut pas dire que c'est un parti qui représente une autre communauté. Donc il y a un enfermement communautaire. Je vous invite, si vous avez l'occasion, à aller à Bagdad pour voir que chacun est claquemuré derrière des murs de béton dans des quartiers confessionnellement purs maintenant. Voilà.
C'est moi. Alors, j'ai le micro là. Alors, voilà, c'est une question. Je ne sais pas si c'est Pierre-Jean et Alessandro à répondre. Enfin, moi, je suis frappée de l'opposition, la différence entre les deux exposés. L'un, celui de Pierre-Jean, pour moi, ce n'est pas une opposition religieuse, c'est une opposition politique, de pouvoir politique, qu'il a, bien sûr, mais je sais bien mais que tu ne distingues pas trop les deux, mais quand même, c'est une question de pouvoir. Voilà, on ne va pas dire politique, mais on va dire de pouvoir. Qui va avoir le pouvoir, la domination sur l'autre? C'est une description avec un passé. Bon. Alors que Alessandro nous a proposé autre chose, concernant certes pas le même espace, mais les deux rives de la Méditerranée, qui est une vision prospective sur qu'est-ce qu'il peut en être de la liberté religieuse concernant les musulmans, pour intégrer les musulmans. Alors, bien sûr, il a évoqué la nécessité d'une confessionnalisation, d'une laïcisation des institutions en Afrique du Nord, sur l'autre rive. Mais j'ai l'impression que c'est pas qu'il a oublié, c'est qu'il a fait tellement une prospective comment oublier qu'il y a des pouvoirs autoritaires dans ces pays d'Afrique du Nord, et des pouvoirs autoritaires qui utilisent, on va dire d'une autre manière peut-être, mais quand même d'une certaine manière, le religieux à des fins de rester au pouvoir autoritaire. Donc comment en Europe on peut affronter cette question? C'est pas facile.
Très bien.
Comment on peut pas faire tout seul, quoi.
Oui. Pour avancer, nous allons écouter toutes les autres questions.
Oui, juste pour demander à Alessandro, qui est quand même allé très très vite, peut-être nous réexpliquer un tout petit peu ce lien entre cette confessionnalisation qui ne devrait pas être trop stato-centrée, si j'ai bien compris, et la citoyenneté européenne. C'est-à-dire, là, il me manque une marche.
D'accord. La troisième question était... Jean-Pierre Durand.
Oui, c'est également une question pour Alessandro Ferrari. Sur, c'est le petit bout de la lorgnette cette fois-ci, sur le rôle de convertis qui se sont institutionnalisés. Est-ce qu'ils considèrent la Corée, c'est l'action de Pallavicini, comme un frein à cette nouvelle citoyenneté ou au contraire un élément qui la favorise? Voilà.
Terminé. Alors, la question des pouvoirs autoritaires, bien sûr, moi, ma réflexion s'était basée sur les évolutions constitutionnelles, par exemple, qu'on a eues au Maroc, Tunisie, Égypte aussi. Alors, trois expériences différentes, mais où on avoue, dans certains moments, une certaine passage à cette phase de la confessionnalisation. Au Maroc, en concentrant l'erreur religieuse sur les rois, mais en libérant les parlements et les gouvernements d'un certain rôle plus confessionnel, cultuel qu'il y avait auparavant. La constitution, par exemple, des frères musulmans, qui a été comme ça immédiatement bouleversée, mais c'était la première où Al-Azhar apparaît comme entité scientifique et pas politique. Donc, on commence à voir une première indépendance de cette institution. Et les fameux articles 206 sur l'interprétation de la charia dans la constitution qui retournait à ce que c'était les règles charaïtiques de l'interprétation classique coranique et donc la dépositiviser tout en la laissant à l'autorité de la Cour constitutionnelle, donc ouvrir une sorte d'interprétation plurielle à ses sources. Ça suffit de dire Baudouin Dupré, tout son travail sur la charia. Donc, je vois qu'il y a des pouvoirs autoritaires, c'est normal, mais là, la façon de l'Europe à s'adresser, c'est aussi avoir la capacité à s'adresser aussi à des agences qui ne soient pas nécessairement et seulement étatiques. Donc, on a des sociétés civiles qui sont très développées, bien sûr moins payantes que l'État, et donc il y a des intérêts, c'est très complexe, mais il y a toute une série de mouvements sociaux et sociétaux même, donc, qui ont des degrés importantes d'enracinement qu'il faut suivre. Et là, c'est la question de la confessionnalisation et de la citoyenneté, dans le sens que les ingrédients de la confessionnalisation sont sans un État. Et là, on voyait les Libans où on a cette poussée, où il n'y a plus de partis, non, tu disais, mais il y a seulement des ethnies et des groupes religieux, d'un certain sens. Alors là, l'État, c'est une composante nécessaire, historique, d'un certain sens, pour avoir la confessionnalisation, qui est l'autre face du pouvoir politique étatique, mais dans une époque de la globalisation, l'État se rapporte aussi à des entités qui sont supranationales, et donc pas seulement l'Union européenne, les conseils, etc. Et donc là, il y a la nécessité et la possibilité de se rapporter à des outils juridiques qui sont plus légers, moins alourdis, des histoires, je dirais, plus liées à la thin morality que à la thick morality, d'un certain sens, et donc qui donne la possibilité aux États d'inclure des éléments plus procéduraux, garantissent qu'ils s'éniennent, d'un certain sens. Et donc, ces processus de confessionnalisation peuvent aider à décharger la force de la religion à niveau institutionnel dans le modèle Église, mais aussi libérer cette force aussi dans la société civile, dans la participation publique et politique. Parce que s'il n'y a pas cette possibilité de la religion d'entrer dans la sphère politique, alors les rôles des Églises, ça va s'accroître, parce que c'est le seul lieu où elles peuvent exprimer la force du religieux. Alors donc, on ira vers des représentations qui sont globales, unitaires et très lourdes. La deuxième question, la Corée. La Corée, c'est exactement ce que j'avais pensé, dans le sens que c'est un groupe d'Italiens convertis qui joue un rôle d'intégration de l'islam en Italie, mais au même temps qui donne l'idée au pouvoir politique italien que les autres musulmans qui ne sont pas ou liés à un état d'origine, la mosquée de Rome, le Maroc, ou qui ne sont pas convertis, sont un peu dangereux et qui ne sont pas bons. Et donc, ça risque, dans cette perception, de ralentir, de n'être pas un facteur d'intégration de l'islam en Italie.
Merci bien. Nous avons eu, je crois, une session tout à fait passionnante et nous avons très, très largement dépassé le temps de notre... Je vais vous remercier. Je vais maintenant...